Sénégal. Sur notre plateau à Washington, Mamadou Kane, membre de l'Association des Sénégalais d'Amérique, à ses côtés, mon collègue Abdourahmane Dia du service francophone de la VOA, et en ligne de Dakar, le journaliste Ousmane Sen de Wolf TV, la télépartenaire de VOA Afrique au Sénégal. Souleymane Bachir Dine, avant d'aller plus loin brièvement, quel sera votre rôle en tant que superviseur de la SENA? Combien de superviseurs comme vous, en fait, seront déployés sur le terrain durant ces élections?
Alors, la SENA, qui est évidemment à Dakar, au Sénégal, a des démembrements dans tous les départements extérieurs au pays où les Sénégalais votent. Je suis président d'un organisme qui s'appelle la DESENA USA, c'est-à-dire la délégation extérieure de la SENA aux USA. Nous sommes quatre qui avons prêté serment pour représenter la SENA aux États-Unis. Moi-même qui suis le président, Pape Dramé, Salim Ka qui travaille au consulat, et un autre membre de la diaspora sénégalaise. Et donc nous voilà, supervisons ces élections, ça veut dire que nous sommes arbitres en quelque sorte.
C'est un travail à...
Et vous avez parlé des controverses, non?
Oui, en fait, c'est inédit dans l'histoire du pays. 47 listes différentes se disputent le choix des Sénégalais. Alors, quels sont les problèmes d'organisation que cette multitude de candidatures pourrait poser, d'après vous, Souleymane Bachir Dine?
Écoutez, c'est un véritable casse-tête. Je crois savoir qu'une simulation a été conduite au Sénégal et que cette simulation, en supposant qu'un électeur prenne les 47 listes qui lui sont proposées pour aller dans l'isoloir et procéder à son vote, si on procède de cette manière-là, je crois savoir que la simulation indique que nous y sommes encore le lendemain des élections. Cela, je crois, résume le problème qui se posera à l'organisation de ces élections, et nous nous attendons donc à des élections qui vont prendre du temps, où les électeurs vont probablement être quelque peu désarçonnés, mais bon, il va falloir faire face autant que faire se peut.
Faire face, alors, à ce nombre de candidats risque-t-il d'avoir un impact sur la participation, hein, parce que de temps qu'en 2012, déjà 3,4 millions d'électeurs n'avaient pas voté, si je ne m'abuse.
Vous avez raison de poser cette question, parce qu'effectivement, c'est une conséquence possible du nombre de listes et de la confusion que cela peut installer dans l'esprit des électeurs. Mais par ailleurs, il faut bien se rendre compte que nous comparons des élections où l'enjeu est quand même très important par rapport à un référendum qui a eu lieu en 2012. Et le référendum, évidemment, a été important. Les dispositions étaient elles-mêmes importantes. Mais les enjeux apparaissaient de manière peut-être moins claire que cette fois-ci. Donc l'un dans l'autre, effectivement, il y a des raisons de craindre l'abstention, mais par ailleurs, les enjeux, plus le fait que pour la première fois, par exemple, la diaspora va élire ses représentants, ce sont là des raisons qui pourraient conduire à penser que les électeurs se mobiliseront quand même. Donc on ne le saura malheureusement que vraiment le jour du scrutin.
Un véritable casse-tête. Ousmane Sen, les médias nationaux sont-ils eux aussi confrontés à des difficultés concernant la répartition du temps de parole avec un tel nombre de candidats?
Oui, c'était d'ailleurs le principal problème, parce que dans un premier temps, d'ailleurs, le PNRA, qui est l'organe de régulation des médias, avait carrément avoué qu'il avait déjà des difficultés pour pouvoir faire respecter le temps d'antenne aux différents candidats. Et nous sommes au début de nos surprises parce que, comme l'a expliqué tout à l'heure le professeur, 47 listes déjà, c'est vraiment un problème pour la couverture. D'ailleurs, les médias ont trouvé de leur côté aussi une certaine ingéniosité pour pouvoir accorder peut-être beaucoup plus de temps à l'information et essayer de voir avec les candidats le côté communication.
Ousmane, je vous entends avec un peu de difficulté.
Oui.
Je vous entends, mais avec un peu de difficulté. Alors, il faut dire qu'il y a une autre nouveauté. Hein. Le nombre de sièges va passer de 150 à 165. Ce sont 15 nouveaux sièges de députés pour représenter les Sénégalais de l'extérieur. Mamadou Kane, je crois que vous êtes également le chef du bureau économique de l'ambassade sénégalaise aux États-Unis, n'est-ce pas? Alors, dites-nous que signifie l'entrée de la diaspora sénégalaise au Parlement?
Merci, on vous remercie pour votre invitation. Question pertinente. La diaspora sénégalaise va exercer son rôle de citoyenneté à distance. Ce n'est qu'un dû que le président de la République Macky Sall a consacré, a proposé à travers le référendum de mars 2016 qui a été adopté par le peuple sénégalais. Économiquement, financièrement, la diaspora sénégalaise contribue largement à l'économie et aux finances. Ce n'est que quelque chose qui leur est dû. Aujourd'hui, compte tenu de leur poids économique et surtout le poids social, leur contribution au niveau des règlements des conflits sociaux, au niveau sociétal, je veux dire, leur faire participer, leur donner 15 députés qui leur sont dédiés, ce n'est que quelque chose de normal pour vitaliser notre démocratie, pour également offrir une plateforme aux Sénégalais de l'extérieur.
Oui, un poids économique, certes, et je crois que en fait, les Sénégalais de l'extérieur représentent environ 4 à 5 millions, c'est ça, c'est un peu la population de Dakar. Mais attendez, pour certains opposants, 15 députés, c'est trop, hein, ce nombre de députés. Ils disent que cette décision, très soutenue par la majorité gouvernementale, va augmenter le budget du Parlement. Que répondez-vous à ces critiques, Mamadou?
Oui, vous avez dit 15 députés. Je pense que ce n'est pas trop. Tout simplement parce que si l'on divise la diaspora en départements, c'est une région avec 8 départements. 8 départements qui sont bien clairement définis. Je pense bien que vous venez de dire que ça équivalait pratiquement à Dakar. Cela veut dire que vous comparez le nombre de députés de Dakar à ceux de la diaspora, le compte est bon. Je pense que aussi, si nous pensons qu'une démocratie n'est solide que par rapport aux voix des citoyens qui s'expriment partout où ils sont à travers le monde, ce n'est qu'un enrichissement. L'autre aspect, peut-être, c'est l'exagération du nombre. La diaspora elle-même, elle a été sur tous les fronts politiques de défense des libertés. Partout où il y a une manifestation
à Dakar. Est-ce qu'on a estimé le coût, je m'excuse de vous interrompre, est-ce qu'on a estimé le coût, combien ça va coûter au Parlement à l'avenir, tout ce que ça va impliquer?
La démocratie, pour l'exercice d'une démocratie, il n'y a pas de prix. Je pense que la diaspora elle-même, elle peut se prendre en charge dès cet instant que nous avions des institutions. Un député, en tout cas les députés...
Mais vous ne disposez pas de chiffres.
Attention, ça dit les chiffres, il n'y aura rien de changé. Le député va percevoir le même salaire, qu'il n'y aura que des indemnités peut-être de session qui vont s'exercer sur les députés, mais rien que cela. Par ailleurs, j'insiste sur une chose. Ce n'est pas une critique que je jette à l'opposition, encore moins au pouvoir. Il faut savoir que la diaspora, elle est diverse et toutes les sensibilités politiques du Sénégal se retrouvent au sein de la diaspora. La diaspora est souvent d'ailleurs crainte par le pouvoir. Oui. Je ne vois pas pourquoi des voix s'élèvent pour dire que le 15 députés de la diaspora pouvaient vraiment mettre en péril point de vue financier.
Bon, je crois que vous avez répondu à ces critiques. Alors, toutes ces nouveautés ont évidemment entraîné la modification du code électoral. Abdourahmane Diya, comment réagissent l'opposition et la société civile face à tous ces changements?
Je pense que pour ce qui est de la modification de la Constitution qui a permis d'augmenter le nombre de députés a été diversement apprécié. D'abord, l'opposition pensait que c'était un gâchis, mais je pense que la diaspora a réagi de façon positive et on voit beaucoup de candidats qui font leur publicité sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mal. L'opposition, c'est vrai, avait appelé au boycott du référendum, mais l'opposition bat campagne en ce moment et je pense que Ce n'est pas surprenant qu'on ait ces points de vue divergents. Maintenant, la révision tardive du code électoral qui est intervenue 6 mois avant le scrutin a effectivement été très critiquée par la société civile, parce que la société civile pense qu'il n'y a pas eu consensus comme le recommande la CEDEAO. Maintenant, cela dit, est-ce qu'il fallait laisser les gens choisir les 47 listes ou alors est-ce qu'il fallait trouver une autre formule comme choisir 5 bulletins parmi les 47? Je crois que dans l'un ou dans l'autre, le problème reste entier. Cela va prendre du temps. Et je pense que tout le monde était surpris qu'on ait autant de candidatures. Mais le problème reste entier.
Voilà, vous restez avec nous. Je vous propose maintenant quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Fulciano Sawadogo, Cotonou, Bénin. Le déroulement du scrutin sera parfait, je pense, mais je trouve la candidature de Wad absurde. En fait, il faut dire que les Facebookers se sont déchaînés au sujet du retour d'Abdoulaye Wad. Moïse Djerang, Yongsou, Djamena, Tchad. Le Sénégal est un pays où la démocratie est en marche. Les nombreuses candidatures et le retour de Wad ne constituent pas un obstacle pour la campagne. Ne changez surtout pas de chaîne, s'il vous plaît. Washington Forum revient après cette pause.
En plus de nos programmes sur FM en cours, la Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Jacques Aristide de retour avec vous. Les grands enjeux dans un instant avec nos invités. Mais d'emblée, quelles sont les attentes des électeurs? Simon Marot a posé la question à quelques-uns d'entre eux dans les rues de Dakar.
Tant que l'opposition significative n'obtient pas une majorité, tant que cette majorité est détenue par le pouvoir, il n'y aura pas de changement. Ce qu'ils auront à faire, ces députés, ils seront toujours dictés par le pouvoir. Donc, pas grande chose. Il ne faut pas attendre grande chose de ces futurs députés pour la 13e législature, franchement.
Je ne sais pas si cette fois-ci, ça sera un changement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que cette assemblée est constituée d'intérêts personnels pour une partie des Sénégalais qui se veut être élus pour leur propre intérêt et non l'intérêt du peuple. Donc, franchement, j'aimerais que cette 12e législature soit une assemblée de changement pour ce Sénégal.
Aujourd'hui, ce que je propose aux nouveaux députés qui seront élus, c'est qu'ils se départissent d'abord de cette législature, de la 12e législature. Nous voulons une 13e législature répondante aux préoccupations des Sénégalais.
Il faut une prise de conscience des députés. Le député doit savoir qu'il doit être neutre, impartial, mais aussi qu'il doit être autonome et indépendant. Donc c'est important pour les députés. Lincoln disait un oui n'a de sens que si celui qui le dit a le droit de dire non.
Et voilà, micro-trottoir réalisé dans les rues de Dakar. Voilà, nous retrouvons nos invités de Paris, Souleymane Bachir Diagne, l'un des superviseurs de la CENA, la commission électorale du Sénégal, de la capitale américaine, Mamadou Kan, il est chef du bureau économique de l'ambassade sénégalaise à Washington DC, et il est également membre de l'association des Sénégalais d'Amérique. Sur le même plateau à Washington, mon collègue Abdourahmane Diatre, avec nous ce soir de la rédaction de VOA Afrique et de Dakar, le reporter Ousmane Sen de Wolf TV, notre télépartenaire au Sénégal. Voilà, on compte plus de 5 millions d'électeurs inscrits d'après les chiffres du gouvernement publiés en mars dernier. Souleymane Bachir Diagne, quels sont pour vous les principaux enjeux de ces élections ?
D'abord, il faut noter que ce sont des élections à mi-parcours, c'est-à-dire que ces élections vont constituer un test, aussi bien un test pour le régime, la coalition au pouvoir, pour, au fond, se présenter à nouveau devant le peuple, devant l'opinion, et avoir mandat pour continuer dans la même lancée. Pour les mêmes raisons exactement, c'est un test également pour l'opposition. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, les élections présidentielles se profilent déjà. Il faut se rappeler qu'en 2019, il y a des élections présidentielles, et ces élections-là sont véritablement la clé de voûte du système au Sénégal. Et par conséquent, on peut considérer que dès ces élections-ci finies, quelque chose comme une campagne électorale va commencer déjà à se mettre en place, et ensuite nous allons y aller en plein régime dans l'année qui va venir.
Voilà, nous allons continuer à parler de tous ces aspects. Professeur, alors, un ancien président en quête d'un siège de député après avoir été chassé du pouvoir en 2012, c'est une première au Sénégal, Ousmane Sène. Comment les Sénégalais interprètent-ils la candidature d'Abdoulaye Wad?
La candidature d'Abdoulaye Wade, je pense que c'est quelqu'un qui est connu et reconnu par les Sénégalais dans ses stratégies politiques. Et je pense que cette fois-ci, la stratégie politique consiste à attaquer le pouvoir, c'est-à-dire à l'inviter sur un terrain un peu diligent. C'est-à-dire que Wade, quand il a des plans d'attaque, il trouve le commandant d'action. Et il a trouvé un commandant d'action même parmi ses ennemis. C'est-à-dire que Pabdou était passé, l'ancien maire de Dakar était passé dans l'opposition. Il a réussi à l'enrôler dans sa liste. Et je pense que c'était aussi pour atteindre quelques objectifs, parce que l'ancien président aussi, s'est joué avec les maires de ceux qui ont la force d'établir le pouvoir. Il a fait une démonstration de force hier dans la cité religieuse de Touba, où on avait interdit toute manifestation politique durant cette campagne. Il a réussi en tant que candidat de Mourinho, il a le droit de lui rendre, et il arrive à Touba, donc pour lui tenir un meeting. Cela veut dire que Wade, donc, il a l'audace et l'intelligence de renouveler donc toute son équipe en fonction du contexte, en fonction également des enjeux de l'heure. C'est ce qu'il a réussi cette fois-ci en s'impliquant dans cette campagne électorale, comme tête de liste de ces élections législatives pour la coalition gagnante Wakou Sénégal. Et cela aussi a quand même réveillé certains de ses partenaires qui, à un moment donné, peut-être, n'avaient pas trouvé d'engouement pour cette campagne, mais je pense qu'il a encore réussi à remettre d'aplomb son parti et sa coalition à travers son retour dans le pays, qui a été quand même un retour avec beaucoup de bruit autour, donc d'abord avant même son départ, ensuite à son arrivée, et il va dérouler donc un plan de campagne à travers le pays comme on le
connaît. En tout cas, vous pouvez le voir sur les images qui nous sont parvenues, hein, on lui a réservé un accueil digne d'un héros national, hein, ce sont les images qu'on voit en ce moment. Alors, un candidat qui mène campagne de sa prison, c'est également une première, si on peut le dire ainsi. Abdourahman, pourquoi le maire de Dakar, Rali Fassal, est-il en fait présenté comme le principal concurrent du président Macky Sall?
Bon, d'abord parce qu'il est le maire de la capitale, une ville qui abrite au moins 3 à 4 millions d'habitants. Il est très populaire à Dakar et c'est l'un des membres les plus influents du Parti socialiste, le Parti de Senghor. Il a décidé qu'à un moment, je pense qu'il a voulu faire cavalier seul parce que le Parti socialiste est membre de la coalition gouvernementale. Il a, en 2014, remporté les élections locales à Dakar au détriment du candidat du parti au pouvoir, et ça l'a mis en célèbre du coup. Donc c'est quelqu'un qui est présenté comme étant quelqu'un qui peut faire mal en 2019, mais il n'a toujours pas déclaré sa candidature. Mais cela dit, il y a eu des mouvements de soutien et les spéculations vont bon train plutôt. Le fait qu'il soit en prison, je pense, élève son profil au niveau national au-delà de Dakar, même si ses critiques disent qu'il est plutôt beaucoup plus connu à Dakar.
Mmh. Même nom de famille, mais aucun lien de parenté, n'est-ce pas? C'est juste pour confirmer.
Absolument.
Voilà. Alors, deux autres commentaires Facebook. Guillaume Kouadjou, Abidjan, Côte d'Ivoire. Hier, Ouad et Rani Fassal, des ennemis. Aujourd'hui, des amis contre Macky Sall. Ah, la politique, tant de surprises. Ablo Kaltama, Niger, à 91 ans. Dites-nous exactement ce que Ouad peut faire et pour combien de temps. En fait, je vous le disais sur la page Facebook de VOA Afrique, nos Facebookers se sont déchaînés sur ce retour de Ouad. Alors, Mamadou Kan, partagez-vous l'avis de ces nombreux observateurs qui qualifient ces élections parlementaires comme une sorte de premier tour avant la présidentielle de 2019. En fait, le professeur nous disait un peu tout à l'heure.
Je partage l'avis du professeur, c'est un test, oui, mais pour revenir à cette préoccupation, en tout cas, qui éclaire notre Facebook, les pages Facebook, c'est que le Sénégal, c'est un pays charmant. Ce qui fait le charme du pays, c'est justement à chaque fois que l'on innove, on a commencé à voter depuis 1945. Aujourd'hui, ces élections-là se situent à un an et demi de la présidentielle. Mais il faudrait aussi faire une analyse assez distante des échauffourées actuelles à Dakar. Si Ouad revient à 91 ans sur la scène politique pour sauver son parti, c'est certainement parce que la relève a été mal gérée. Et osons le dire, peut-être que la division de l'opposition en relation avec la défection de Khalifa Sall par rapport au Parti Socialiste, oui.
Oui. En fait, j'allais vous demander, hein, j'imagine que vous êtes un peu proche du régime de Dakar, évidemment. Alors, Ouad, d'après vous, prépare-t-il ainsi le terrain pour la candidature de son fils Karim en 2019, rapidement?
Je n'aime pas faire des supputations. Et pour le préciser, moi, je suis porte-parole de la mouvance présidentielle ici aux États-Unis, l'APR. Mais c'est pour la précision. L'autre aspect, Abdoulaye Ouad, sa présence, mon analyse, c'est que c'est un échec justement de la relève, c'est-à-dire que du PDS. Parce qu'à 92 ans quand même, il y a un code d'honneur qui veut qu'à 92 ans, que le fils aille au champ à la place du père. L'autre aspect, c'est que 2019, Ouad ne pourra pas se présenter. La question donc de celui qui fera face au président Macky Sall se pose. Donc ces élections législatives aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un test, oui, pour Benno Bokeyakar, la mouvance présidentielle, parce qu'il s'agit de renforcer, de renouveler une majorité. Si cette majorité n'est pas renouvelée, bien évidemment, le pouvoir se trouvera dans une situation assez difficile pour continuer les grands projets qui sont aujourd'hui, qu'on est en train de dérouler dans le pays.
Abdou, je m'excuse de vous interrompre, le temps passe tellement vite, il y a encore deux petites questions que j'aurais aimé poser. Abdou, brièvement si vous pouvez, il y a également la participation à ces élections des mouvements qui se réclament de la société civile. Est-il question pour eux de briser le règne des grands partis?
Oui, absolument, et je pense que toutes ces candidatures sont venues pour essayer de bousculer la hiérarchie. Pendant longtemps, on a accusé les partis politiques de vouloir fermer la porte et dans l'ancienne constitution, pour quelqu'un de la société civile qui voulait se présenter à ces élections devait passer par une liste de partis politiques. Aujourd'hui, ils peuvent le faire directement. C'est pour ça qu'on voit des gens comme Sonko, cet ancien de la fonction publique qui a critiqué le régime, et également un animateur de la télé assez populaire. C'est pas exclu qu'on ait une assemblée assez différente cette fois-ci. Maintenant, qui va... quand on se retrouve avec une cohabitation, je serais très surpris, mais c'est pas étonnant qu'on retrouve de nouvelles têtes, excusez-moi du terme.
En fait, je m'excuse, c'est la question que j'allais poser au professeur Diagne. Alors, si les électeurs décident d'imposer une cohabitation avec une majorité de députés de l'opposition au Parlement, professeur Diagne, très rapidement, que va-t-il se passer? Est-ce que la Constitution prévoit quelque chose à ce niveau?
Je ne sache pas que la Constitution soit descendue à ce niveau de détail, mais il est bien clair que la démocratie a ses règles et le Sénégal, qui a une solide tradition démocratique, suivra les règles de la démocratie. Autrement dit, dès lors que l'opinion publique...
En fait, pour répondre à la question directe que je voulais vous poser, est-ce qu'on peut nommer un Premier ministre issu de l'opposition? Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Je suis désolé, le temps passe trop vite.
Ah oui, je vous en prie. Non, mais a priori, effectivement, effectivement, le président de la République nomme qui il veut.
Je suis désolé. Voilà, point final.
Voilà, non, mais j'entends bien.
Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Et merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care.